VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du jeudi 24 mai 2018, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Burkina Faso, les djihadistes abattus cette semaine à Ouagadougou projetaient une attaque contre la capitale.
Le secrétaire permanent de la force militaire G5 Sahel, Maman Sidikou, demande au Conseil de sécurité de l'ONU un mandat renforcé pour cette unité anti-djihadiste.
Toujours au Conseil de sécurité, nouvel appel au calme et à la retenue en République centrafricaine.
En République démocratique du Congo, plusieurs personnes ont été blessées dans des heurts ces derniers jours à Kisangani.
Pyongyang entretient le doute sur le sommet entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, on en sait un peu plus sur l'opération de traque de terroristes présumés mardi à Ouagadougou. Les quatre assaillants prévoyaient une attaque contre la capitale burkinabé au mois de juin. Trois ont été abattus et le quatrième, un Malien, a été capturé. La procureure du Faso a fait ses révélations hier lors d'une conférence de presse. Compte rendu de Lamine Traoré, correspondant VOA Afrique.
Au lendemain de l'opération antiterroriste menée à Rayongo, en périphérie de Ouagadougou, la procureure du Faso, Maïsa Sérémé, a révélé que deux Burkinabés et deux Maliens souhaitaient attaquer la capitale du pays des hommes intègres.
Les quatre individus qui occupaient la villa depuis le 10 mai 2018 sont de nationalité burkinabé et malienne.
Le cerveau présumé du groupe, l'un des Burkinabés, Abdoulaye Sabadogo, alias Abdallah, est impliqué dans l'attaque d'une brigade de gendarmerie dans l'ouest du pays en octobre 2015, a annoncé la procureur qui précise que les présumés terroristes avaient un plan bien orchestré.
Il est établi qu'ils projetaient une attaque dans la capitale courant mois de juin 2018 contre des cibles importantes.
Selon Maïsa Sérémé, l'enquête révèle un lien entre les occupants de la villa et les assaillants de la double attaque du 2 mars dernier à Ouagadougou contre l'état-major et l'ambassade de France. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire permanent de la force militaire G5 Sahel, Maman Sidikou, a réclamé hier un mandat renforcé pour cette unité anti-djihadiste naissante, une demande aussitôt rejetée par les États-Unis qui, selon l'AFP, refusent toute implication accrue de l'ONU. Une combinaison d'appuis bilatéraux et multilatéraux au Sahel permettra de satisfaire les besoins financiers et logistiques de la force, a estimé à cet égard la diplomate américaine Amy Tachko.
La diplomate a rappelé les millions de dollars déjà apportés à la région de manière bilatérale par Washington depuis des années. Dans un communiqué adopté hier soir, le Conseil de sécurité a appelé les cinq membres fondateurs du G5 Sahel à lui faire atteindre sa pleine capacité opérationnelle dès que possible et aux donateurs à débloquer leurs fonds pour accélérer sans retard la pleine aptitude de la force à agir.
D'autre part, le Conseil de sécurité inquiet des tensions communautaires croissantes en Centrafrique. L'Afrique a de nouveau appelé hier au calme et à la retenue. Il a notamment demandé aux groupes armés de déposer leurs armes. Le Conseil de sécurité s'inquiète surtout des informations évoquant de plus en plus de discours haineux et de tensions communautaires en Centrafrique, selon sa déclaration.
Et la Russie souhaite renforcer ses liens avec la République centrafricaine, a indiqué hier son président Vladimir Poutine à son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra, présent à Saint-Pétersbourg. La Russie a en décembre livré un important stock d'armes à Bangui. Moscou a aussi obtenu l'autorisation de l'ONU pour dispenser une formation militaire à deux bataillons des forces armées centrafricaines.
En République démocratique du Congo, plusieurs personnes ont été blessées, dont une grièvement, dans des heurts qui ont opposé ces trois derniers jours, dans le nord-est, des policiers aux chauffeurs de taxi-moto, puis aux étudiants à Kisangani. Le point avec Raissa Gironda.
Hier, des étudiants de l'Institut national de bâtiments et travaux publics se sont opposés à des policiers, paralysant les activités à Kisangani. Les policiers appuyés par des militaires ont usé de gaz lacrymogène sur les étudiants qui ont riposté par des jets de pierre plusieurs personnes ont été blessées, dont une femme qui a reçu une balle perdue à la tête et a été hospitalisée. Les violences ont commencé lundi soir, lorsqu'un chauffeur de taxi-moto a perdu connaissance après une chute en tentant d'échapper à un policier. Les conducteurs de moto-taxi ont alors jeté des pierres sur ces derniers. Par la suite, les étudiants ont accusé la police d'avoir tiré mardi du gaz lacrymogène sur leur salle de classe alors qu'ils passaient leurs examens. Mercredi soir, un calme apparent est revenu dans la ville où policiers et militaires mènent des patrouilles.
Le président français Emmanuel Macron a apporté hier son soutien à la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, candidate à la tête de la francophonie. C'était à l'issue d'une rencontre à Paris avec son homologue rwandais Paul Kagame. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
La ministre des Affaires étrangères du Rwanda a toutes les compétences pour exercer cette fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie et je la soutiendrai, a déclaré le président Emmanuel Macron. Le mandat de l'actuel responsable de l'OIF, la Québécoise Michaëlle Jean, expire à la mi-octobre. Le chef de l'État français s'est exprimé aux côtés de son homologue rwandais, président en exercice de l'Union africaine. Paul Kagame a été convié à l'Élysée pour la première fois depuis 2011 à l'occasion d'un sommet international sur la high-tech. Les relations entre Paris et Kigali sont tendues depuis le génocide de 1994 au Rwanda. Pour le président français, je cite, « Il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer les difficultés du passé, mais au contraire d'assumer cette complexité et la surmonter. » M. Macron a aussi annoncé qu'il va se rendre au prochain sommet de l'Union africaine début juillet à Nouakchott, en Mauritanie.
Amnesty International signale dans un rapport publié aujourd'hui que des femmes ont été violées dans le nord-est du Nigeria par des soldats et des miliciens en échange de nourriture et que des milliers d'autres sont mortes de faim dans les camps de déplacés de la région où sévit le groupe djihadiste Boko Haram.
En Égypte, le blogueur et journaliste Wael Abbas, connu pour ses positions contre la violence policière, a été arrêté à son domicile du Caire. Selon son avocat, il a été emmené vers une destination inconnue. Ekiabadou.
Je suis en train d'être arrêté. C'est le dernier message posté sur le compte Facebook de Yael Abbas. Son avocat, Maître Gamal Haïd, parle de kidnapping, pas d'une arrestation. Pour l'heure, aucune information du lieu où le blogueur se trouve. Selon une ONG égyptienne, il a été arrêté par des policiers lourdement armés et a eu les yeux bandés avant d'être emmené vers une destination inconnue. Yael Abbas, publié depuis plus d'une dizaine d'années sur Facebook, YouTube et Twitter, des prises de position contre les violences policières, la torture ou encore la corruption. En janvier 2009, lors de la révolte qui avait provoqué la chute du président Hosni Moubarak, il avait largement commenté les événements sur les réseaux sociaux. Depuis décembre 2014, son compte Twitter a été bloqué. Mardi, un autre journaliste et chercheur spécialiste du mouvement djihadiste dans le Sinaï, Ismaël Alexandrani, accusé de faire partie de la confrérie des frères musulmans, a été condamné à 10 ans de prison par une cour militaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Irak, au moins 4 personnes ont été tuées et 6 autres blessées dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque suicide contre des cafés en plein air du nord de Bagdad, très fréquentés durant les nuits du Ramadan. C'est ce qu'ont indiqué des sources policières. L'attentat a été perpétré dans un quartier majoritairement chiite. L'Irak a déclaré en décembre la victoire sur le groupe État islamique, mais des cellules clandestines djihadistes continuent de perpétrer des attaques, notamment en périphérie nord de Bagdad.
Le président américain Donald Trump a appelé à un changement radical dans la structure de l'aide américaine aux pays qui, aux yeux de Washington, n'en font pas assez pour aider à endiguer la vague de migrants illégaux violents se dirigeant vers les États-Unis. Monsieur Trump n'a pas précisé de quel pays il parlait. Il a tenu ses propos hier lors d'une rencontre dans un centre du ministère de la Sécurité intérieure à Long Island.
Pyongyang menace de reconsidérer le sommet entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un si les États-Unis continuent, je cite, « leurs actes maléfiques ». C'est ce qu'a dit la vice-ministre des Affaires étrangères en réaction à de récents propos du vice-président américain Mike Pence. Ce dernier avait dit lundi sur Fox News que Kim Jong-un commettrait une grosse erreur s'il pensait qu'il pouvait se jouer de Donald Trump. Et M. Pence avait mis en garde contre un sort similaire à celui de la Libye de Muammar Gaddafi si Kim Jong-un ne concluait pas d'accord avec M. Trump. Gaddafi a été tué dans un soulèvement après avoir renoncé à ses ambitions nucléaires. La vice-ministre nord-coréenne a qualifié l'interview de M. Pence de déchaînée et impudente et aussi de remarque idiote et ignorante.
Toujours aux États-Unis, le président Trump a demandé au secrétaire au commerce Wilbur Ross d'envisager l'ouverture d'une enquête sur ce qu'il a appelé l'impact des importations de véhicules sur la sécurité nationale. Cette enquête devra être initiée sous la section 232 sur les importations de véhicules, y compris les camions et les pièces détachées, selon M. Trump. C'est la même section que le président américain avait utilisée pour imposer des tarifs de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Eric Manirakiza.
L'Afrique du Sud veut booster le secteur de l'automobile. Le gouvernement promet une politique économique avantageuse pour les entreprises automobiles locales. Cependant, les constructeurs estiment utopiques les ambitions de Pretoria de faire peser l'industrie automobile sud-africaine pour 1% de la production mondiale d'ici à 2035. Il faudra une production annuelle de 1,5 million de véhicules. L'année dernière, la production a été de 600 000 véhicules. Les constructeurs demandent également à l'État de modifier son plan visant à atteindre une main-d'œuvre de 225 000 personnes. La Tunisie recevra de la banque allemande KfW 96 millions de dollars pour développer un projet hydraulique. Ce prêt servira à installer une station de dessalement à Al-Zara dans le sud-est. À terme, les autorités espèrent pouvoir fournir de l'eau potable à près de 1 500 000 Tunisiens d'ici à 2035. La Corée du Sud s'est engagée à investir 5 milliards de dollars en Afrique pour 2019 et 2020. Les investissements seront essentiellement réalisés dans les domaines du développement des zones rurales, de la formation des ressources humaines, de la lutte contre le changement climatique et des infrastructures. Séoul entend d'autre part consacrer 1 milliard de dollars à un programme d'électrification mené par l'Agence américaine pour le développement international USAID. Naguère pauvre et endettée et dotée de peu de ressources naturelles, Séoul est devenue aujourd'hui la 11e puissance économique de la planète.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Soupçon de corruption à la Fédération Ghanéenne de Football.
Et oui, la police qui a annoncé hier l'ouverture d'une enquête sur des allégations de corruption à l'encontre du président de la Fédération de Football du pays, faisant suite à une demande spéciale du président du Ghana. Cette affaire résulte d'une enquête menée par un journaliste connu au Ghana pour avoir exposé de nombreuses affaires de corruption ou d'abus de pouvoir dans le pays. De son côté, la Fédération Ghanéenne de Football se refuse à tout commentaire.
Début de la préparation de la Coupe du Monde pour le Sénégal.
La sélection sénégalaise est réunie pour une courte mise au vert près de Dakar. C'est la seule occasion de communier avec les supporters avant le Mondial en Russie. En effet, Idrissa, pour des raisons financières notamment, la fédération n'a pas organisé de match de préparation au Sénégal avant cette première Coupe du Monde des Lions de la Teranga depuis leur quart de finale en 2002 au Japon et en Corée du Sud. Le sélectionneur Aliou Cissé, qui a dévoilé sa liste des 23 joueurs le 17 mai dernier, a donné rendez-vous depuis lundi dans la station balnéaire de Sali, à 80 km de Dakar. Pour le premier entraînement, seuls 7 lions étaient présents. Beaucoup manquent à l'appel, notamment Sadio Mané, qui prépare, vous le savez, la finale de la Ligue des Champions. Ce sera samedi, le Real Madrid contre Liverpool.
Emery rebondit à Arsenal.
Unai Emery, l'ex-entraîneur du Paris Saint-Germain, a été nommé manager d'Arsenal. Annonce du club londonien où il aura la lourde tâche de succéder à Arsène Wenger en poste depuis 22 ans. Le technicien espagnol de 46 ans, vous le savez, a remporté 3 Europa League consécutives avec Séville entre 2014 et 2016, avant de rejoindre pour 2 saisons le Paris Saint-Germain. Un cauchemar pour lui, c'est bien évidemment la remontada, la défaite subie par le Paris Saint-Germain 6 buts à 1 en Ligue des Champions contre le FC Barcelone l'année dernière. Allez Idrissa, avec vous enfin les playoffs NBA, le championnat de basket nord-américain. La finale de la conférence Est se poursuit.
Boston n'a plus besoin que d'une victoire dans la finale de la conférence Est pour atteindre la finale du championnat NBA après son net succès 96-83 face à Cleveland mercredi. Les Celtics mènent 3-2 et peuvent empocher leur qualification vendredi à Cleveland ou dimanche dans leur salle.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sidoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, des séparatistes se battent pour l'indépendance des régions anglophones. La riposte du gouvernement a fait de nombreuses victimes, aussi bien chez les insurgés que chez les militaires. Des centaines de personnes sont toujours portées disparues depuis 6 mois. Moki Edwin Kinzeka s'est rendu à l'hôpital militaire de Yaoundé. Son reportage est repris ici par Marie Benson.
Une ambulance roule à toute vitesse vers l'hôpital militaire de Yaoundé. Elle transporte 4 blessés ramenés par hélicoptère après des combats à Bangem et Mamfé, 2 villes anglophones. Le docteur Kaldada Koufagoued est de garde à l'hôpital.
On part du ramassage là au lieu de l'incident jusqu'à notre niveau. Ils arrivent par le biais des urgences où tous les médecins de l'hôpital sont mobilisés au départ et puis on les oriente en fonction de la lésion. Si c'est des traumatismes des membres, c'est le traumatologue. Si c'est pour le rachis, c'est le crâne, c'est le neurochirurgien. Ou s'il y a les viscères qui sont touchés, c'est les viscéralistes qui s'en occupent.
Il y a environ 60 blessés dans cet hôpital. Le sergent Achille Nomo Atouba s'est réveillé sur son lit il y a 2 semaines. Il avait perdu connaissance lorsque son convoi a été attaqué dans les régions anglophones.
On devait accompagner le sous-préfet à Akwaya, dans le sud-ouest. On a bien fini la réunion, le causerie avec la population. En rentrant, c'est là où ces gens sont partis nous tendre l'embuscade. À quelques 100 mètres que la route a commencé à glisser. J'entends seulement de mon côté, boum, ouais. A pris ma main gauche, c'était sur le volant comme ça là. A lâché une fois, le sang a commencé à jaillir dans toute la pick-up. Il dit au lieutenant que je fais mon lieutenant, je suis touché.
Abba Isho Abba, lui, a été amputé de la jambe. Il avait infiltré les mouvements séparatistes, mais son identité a été découverte.
On m'a pris comme un agent de renseignement. BD sur le terrain et puis par après on m'a pris en biscate en ville et on m'a tiré sur le pied.
Outre l'hôpital de Yaoundé, d'autres blessés sont envoyés à l'hôpital de Douala, la capitale économique. D'autres sont envoyés dans des hôpitaux plus sécurisés dans des régions anglophones et les cas complexes vont dans des hôpitaux militaires spécialisés. Les violences ont éclaté dans les régions anglophones en novembre 2016. Une grève des avocats et des enseignants demandait l'arrêt de marginalisation des anglophones. Des écoles et des bâtiments administratifs ont été brûlés. Le gouvernement a envoyé sur place des soldats pour sévir contre ce qu'il qualifie de terroristes. Plus de 70 villages ont été incendiés. Selon les Nations Unies, des centaines de milliers de personnes se sont réfugiées dans les forêts ou dans les villes francophones. Au moins 20 000 personnes se sont réfugiées au Nigeria. Au moins 200 personnes ont péri dans ces affrontements et des centaines sont toujours portées disparues. Julius Ayuk Tabe, le président autoproclamé de l'Ambassonie, a été arrêté au Nigeria en janvier avec 47 autres collaborateurs. Ils ont tous été extradés et sont gardés au secret. Mardi, l'ambassadeur des États-Unis, Peter Henry Ballerin, s'est fait tirer les bretelles à Yaoundé après sa déclaration accusant les forces de sécurité et les séparatistes de nombreuses extractions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. L'ambassadeur américain a appelé au dialogue pour résoudre cette crise.
L'ambassadeur Ballerin avait également exhorté le président camerounais Paul Biya à penser à son héritage politique. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines.
Sans doute, le gouvernement camerounais n'est pas content parce que l'ambassadeur a déjà vu le ministre pour exprimer nos inquiétudes il y a quelques jours, mais aussi il a exprimé les mêmes inquiétudes en public. Donc peut-être le gouvernement du Cameroun n'est pas content. Mais Yaoundé doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre par la voie militaire. Ils ont oublié la loi Cohen, c'est-à-dire chaque guérilla a un partenaire à l'extérieur. Donc les anglophones, ils ont leur partenaire à l'autre côté de la frontière au Nigeria. Ce n'est pas le gouvernement du Nigeria, mais il y a des individus, des gens qui ont le même ethnie, qui aident ces guérillas. Donc la seule solution, c'est une négociation, c'est pas la guerre.
Apparemment, les autorités camerounaises sont aussi irritées du fait que l'ambassadeur ait appelé le président Paul Biya à considérer son héritage.
L'ambassadeur a raison. Paul Biya a été un bon président depuis longtemps et le Cameroun a gagné dans le domaine économique. Il y avait une expansion, une bonne gestion économique, utilisation des revenus de pétrole pour construire des routes, des centrales électriques. Donc, il a un très bon héritage, président Biya. Mais il peut gaspiller ça avec cette sale guerre de guérilla.
Mais est-ce qu'il revient à Washington de décider quand est-ce que le président Paul Biya doit quitter le pouvoir?
Bien sûr, non. C'est le peuple camerounais qui doit choisir dans les élections.
Les États-Unis apportent un appui au Cameroun sur le plan de la sécurité. Que pouvez-vous nous en dire?
Oui, bien sûr, parce qu'il y a la menace islamiste dans le nord-est du pays par la Boko Haram dans la région de Lac Tchad. Pour cette guerre-là, nous sommes complètement solidaires avec le Cameroun. C'est la même lutte. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans le Cameroun anglophone. C'est une autre paire de manches.
L'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines des États-Unis, joint ici à Washington.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la réapparition de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Une campagne de vaccination a démarré lundi. Quelle est l'ampleur de cette 9e épidémie en RDC? Les pays voisins courent-ils un risque de propagation? Que sait-on du vaccin expérimental utilisé pour contrer la maladie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h.
En République démocratique du Congo, le parti lumumbiste unifié, grand allié de la formation politique du président Joseph Kabila aux élections précédentes, compte annoncer son propre candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le parti lumumbiste s'inquiète, comme beaucoup dans la classe politique congolaise, de l'Ebola, mais aussi des signaux qui font penser que le président sortant pourrait briguer un autre mandat en violation de la Constitution. Eddy Sango a joint un responsable du parti, l'ancien premier ministre Adolphe Mouzito.
Fort de l'expérience, les experts congolais et ceux de la communauté internationale, tout l'appui qu'il y a, je pense que d'ici là, on pourra venir à bout cette triste maladie, ce triste virus. Je pense que ça ne devait pas être une contrainte qui va faire que les élections n'aient pas lieu.
Est-ce que le calendrier est respecté? Est-ce qu'il y a de l'espoir que le 23 décembre, il y aura élection?
Moi, je doute fort que le gouvernement puisse disponibiliser le moyen, mais c'est de sa responsabilité de mobiliser les 500 millions de dollars sur lesquels il s'est engagé, parce que les autorités du pays ont dit qu'il n'avait pas besoin de l'appui de la communauté internationale. Mais ensuite, il y a le fait que la grande majorité, aussi bien de la population que de l'opposition, rejette la machine à voter. Et il y a des doutes quant à la qualité du fichier électoral.
Mais un audit est en cours pour cela.
J'espère bien que les résultats seront concluants et qu'il y aura un consensus de la part de toutes les parties prenantes qui participent à cet audit mis en place par l'OIF, c'est dont je me félicite. Tant mieux si on peut régler cette question, les non-doublons est important. Et là aussi, probablement, il y aura un réajustement qui pourra faire qu'on revoie à la hausse le nombre d'électeurs. Là encore, ça pourra impliquer un autre retard, mais il reste toujours la problématique de la machine à voter.
Votre parti, les Palous, est de la majorité. En fait, jusque-là, il y a un flou. Parfois, vous avez haussé les tons. Certains pensent que le président pourrait même se représenter.
Les Palous son alliance avec le président Kabila et sa formation politique. C'est fini avec la fin de la majorité présidentielle qui a été consacrée par la fin du mandat. Donc aujourd'hui, le PALU est dans les institutions comme toute autre formation politique qui a un ancrage sociologique dans le peuple. Donc moi, par exemple, je me considère comme opposant, mais opposant citoyen. C'est-à-dire tous ces mouvements, par exemple les Filimbi et les autres, hein, c'est pour illustrer que je donne cet exemple. Et nous tous, nous sommes contre le fait que les élections n'ont pas eu lieu. Mais on s'oppose au président de la République en tant que garant de la nation de n'avoir pas fait en sorte que les élections aient lieu.
Votre parti a quand même pris part à la dernière réunion de la majorité présidentielle à l'issue de laquelle les gens s'attendaient au nom d'un dauphin.
Les soupçons sont grands dans le peuple et au niveau des élites. Hein, les gens ont l'impression qu'il a envie de se représenter.
Serez-vous vous-même candidat à la présidentielle du 23 décembre?
Oui, j'ai dit qu'il y a de fortes probabilités et je m'y prépare. L'option du parti est claire. Elle a été annoncée par le patriarche lui-même. La prochaine fois, le PALU va présenter son candidat. Ce candidat pourrait être moi-même ou un autre. C'est une question de débat.
C'était Adolphe Mouzito, au cadre du PALU et ancien Premier ministre. Et il nous parlait depuis l'État d'Ohio, ici aux États-Unis.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Depuis le 7 mai dernier, le Congo-Brazzaville vit au rythme des procès à caractère politique et militaire. Nombreux sont ceux qui estiment que le pouvoir veut régler ses comptes avec ses opposants et avec ceux qui, partisans du régime, développent des ambitions politiques. Mais pour le PCT, le parti au pouvoir, il faut avoir confiance dans la justice. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Séverin.
Ces procès donnent lieu à diverses interprétations auprès des populations qui restent éveillées à suivre jusqu'à tard dans la nuit la diffusion des audiences sur la télévision nationale. Chacun se fait sa propre opinion et l'opposition estime que tous ces procès sont cousus de fil blanc. Éric Patrick Mampouya, membre de la Fédération de l'opposition congolaise, dit comprendre les velléités des généraux à vouloir renverser les institutions.
Parce que à côté, il y a un monsieur surarmé, le pouvoir actuel, qui ne fait rien face aux difficultés des Congolais. On ne peut pas le changer. Ils sont là, arc-boutés, à la prochaine élection, si encore eux. Ça fait 50 ans, ça dure. Alors, quelle est l'alternative? Je ne justifie pas la violence. Attention. Mais à un certain moment, je peux la comprendre. Je comprends les généraux qui cherchent à gauche, à droite. Je ne dis pas qu'ils ont cherché parce que les preuves, pour moi, n'existent pas.
En réaction à la condamnation du général Mokoko à 20 ans de prison ferme, la présidente de la Fédération de l'opposition, Claudine Munari, a écrit au procureur de la République, lui demandant de l'incriminer et de lui faire faire un procès, car elle aussi aurait des intentions assimilables à l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, crime pour lequel le général Mokoko a lourdement été châtié. Mais au niveau du Parti congolais du travail, PCT, le principal parti au pouvoir, les dirigeants appellent à la sérénité et à faire confiance à la justice. Serge Michel Ozuki est le porte-parole du PCT.
Le parti respectueux de l'indépendance du pouvoir judiciaire ne se mêle pas du tout ce qui se fait au niveau de la justice. Nous faisons confiance à la justice de notre pays. Dans les deux, pour ceux qui viennent d'avoir lieu, il y a un qui a demandé un pouvoir en cassation, il y a un autre qui a dit non. C'est la liberté de chacun. L'état de droit, c'est cela. Ne faisons pas comme ceux-là qui, dans un tout autre domaine, sont à la fois pyromanes et pompiers, ce n'est pas bon.
Analysant les faits avec le recul, le professeur Raymond Timothée Makita épingle une crise de palais qui pourrait faire mal au régime.
En général, les procès qui ont eu lieu dans notre pays concernant des affaires politiques consistaient toujours dans la réaction du pouvoir vis-à-vis d'une opposition. Mais cette fois-ci, vous avez dû constater que la contestation est à l'intérieur même du système. Bon, mais on peut comprendre qu'il y a certainement au sein de la majorité présidentielle des personnes qui ont des ambitions, qui veulent les exprimer. Et donc cela explique ce schisme, c'est vraiment un schisme parce que quand on parle de général Mokoko, de M. Okombi, Salissa, de Dabiras, c'est quand même des officiers qui sont des très proches du président Sassou et qui l'ont même ramené au pouvoir en 97.
Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Salut les
les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console John Ellison. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.